Ok, puisque c'est ma dernière soirée et qu'on est bien parti pour désocculter, démystifier, en tout cas en ce qui me concerne, j'en ai rien à faire puisqu'après ça je vais m'occuper de mes tomates. On pourrait aller dans l'occulte encore. Il y a, parmi l'assistance, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le parcours initiatique des ordres philosophiques, des ordres ésotériques, de ce qu'on appelle les sectes aussi. Et à travers leur cheminement, avec le temps, en graduant les échelons hiérarchiques de ces ordres ésotériques, certains en comportent 33, imaginez-vous, à raison d'une graduation par année. La carotte qui est tendue au néophyte ou à l'aspirant qui rentre dans un ordre philosophique, c'est finalement l'accès au grand secret que détient cet ordre philosophique. Certains d'entre vous ont pénétré plusieurs de ces sectes ou de ces ordres ésotériques avec l'idée de la recherche, de la connaissance de soi, du dépassement de soi, de la maîtrise de la vie, etc., tous les programmes pour lesquels ils étaient entrés, et aussi l'idée d'être en possession finalement d'un secret occulte que les autres n'auraient pas. Et c'est la raison pour laquelle on nous fait cheminer à travers 33 degrés, à raison à peu près de 1 000 $ par degré par année de frais. Faites le compte. Au bout de 33 ans, 33 000 $. Puis, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas déçus d'avoir payé des sommes aussi considérables dans leur cheminement, mais ils étaient déçus de ne pas avoir accédé au grand secret que seul le grand maître de la loge en question détenait. Alors, il semble que tous ces ordres ésotériques-là ont un secret ultime. Puis ce soir, ce serait intéressant qu'on essaye de percer ce secret. Ça sauverait du temps et de l'argent à bien du monde. En tout cas, moi, je m'en irais avec la conscience tranquille, si je pouvais vous épargner ça. C'est pas sûr que je le connaisse, puis c'est pas sûr que Bernard veut le dire. C'est toujours de même, nous autres. Moi, je suis l'aspirant au secret. Lui, il ne veut pas le lâcher. C'est quoi ce fameux secret? C'est plat de commencer comme ça parce qu'il va parler pendant une heure puis on ne le saura pas. C'est la même chose que quand on lui demande qui c'est qui a écrit son livre. C'est pas lui. Il y a bien quelqu'un qui l'a écrit. Lui, il l'a signé. Les ordres ésotériques, c'est pareil. C'est pas le maître, le grand maître de la loge, qui va vous donner le secret. Il faut que vous le trouviez par vous-même. Si vous le trouvez, vous avez la possibilité de dégommer le grand maître de la loge et puis de prendre sa place, faire du chantage. Qu'est-ce que ces gens-là, ces 781 ordres ésotériques qui se trouve au Québec. 781. Dernière statistique, puis celle-là remonte au début de l'année. Hein. Ils doivent être à 800, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont donc tous à nous cacher de si merveilleux ou de si mystifiant ou de si terrible? Vous êtes déjà posé la question? Vous n'avez pas fait le parcours dans les ordres ésotériques, vous n'avez pas été chercher les rubans, les médailles, tout ça, non? Vous n'avez pas assisté aux agapes fraternelles, aux initiations. Mais quand même, vous devez le savoir. On est initié quand on rentre dans un mouvement comme ça. Du mouvement sérieux, là. Ben, sérieux, ça veut dire qu'il y a une amplitude sur le monde, qui ont des milliers d'adhérents, qui sont structurés, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et qui sont infiltrés partout, à tous les niveaux décisionnels. Moi, je me dis, quand on fait le bien, on n'a rien à cacher. Là où il y a de l'occulte, je me dis, il peut y avoir quelque chose de mal à cacher. C'est-tu simpliste, ça, comme raisonnement ?
Bon. Si on regarde l'affaire des secrets, des sectes ou des ordres, je crois que les ordres qui préconisent un secret le font pour attirer l'homme. Je ne dirais pas qu'ils le font d'une façon malhonnête, mais je dirais, dans mes propres mots, qu'ils sont astralisés. Pour moi, le secret, c'est une façon de mystifier le mental humain, de mystifier l'homme. L'homme, souvent, qui commence dans ses démarches, il est naïf, il est spirituel, il va à la recherche de soi. Autrement dit, il chante le cantique qu'on chante depuis des millénaires. Et je crois que tous ces orbes, ces 600 quelques orbes, et ces milliers dans le monde, font quelque chose pour l'homme, veulent faire quelque chose pour l'homme, mais sont piégés dans le processus. Ils sont piégés dans le processus parce que, dans le fond, le secret, il n'y en a pas. Mais par contre, si ou même s'il n'y a pas de secret, ils peuvent en créer un, ils peuvent en composer un, pour une raison. Et cette raison, c'est le pouvoir occulte. Et pourquoi le pouvoir occulte? Le pouvoir occulte parce que je crois que dans la mesure où l'homme ésotérise son mental, autrement dit, dans la mesure où l'homme sort des canons philosophiques normaux, rationnels, pour entrer dans les canons ésotériques ou philosophiques marginaux, je crois que son mental change, sa vibration change. Donc, automatiquement, il est astralisable. Ça veut dire quoi être astralisable? Être astralisable, ça veut dire que, sans le reconnaître au début, petit à petit, il vient en contact avec des mondes parallèles, à différents niveaux, selon son propre taux vibratoire, selon sa propre conscience, selon sa propre naïveté, selon sa propre spiritualité, selon son propre mysticisme. Et si on regarde la structure psychique de l'homme, comme moi je la vois, je vois l'homme vivant sur le plan mental dans un peu de lumière et dans beaucoup de ténèbres. Ceci fait partie de ce que j'appelle l'involution. Par contre, ces ténèbres, autrement dit, ces mondes qui colorent la pensée humaine, sont des mondes réels. Et quand l'homme entre dans les ordres, à cause de la vibration des mots, de la vibration des symboles, de la vibration des rituels, et ainsi de suite, il vit une accélération psychique, c'est-à-dire qu'il devient, sans s'en rendre compte, semi-voyant. Okay? Et en devenant semi-voyant, il prend une certaine conscience. Mais cette certaine conscience n'est pas une conscience certaine. Ceux qui sont à la chefferie de ces organisations, de ces agences ou de ces mondes ou de ces organisations, sont des êtres qui ont fait le même acheminement que l'homme avant. De sorte qu'au cours des millénaires, il s'est produit comme une continuité, il s'est défilé une continuité ésotérique ou occulte d'une vibration qui n'a jamais été cassée. Et comme cette vibration n'a jamais été cassée, autrement dit, comme la forme de l'ésotérisme ou de l'occultisme n'a jamais été cassée, elle perpétue son mouvement aujourd'hui, et comme nous vivons dans un siècle qui est extrêmement instable, où l'homme a besoin grandement de se trouver, il est attiré à ces forces, à ces mécanismes, à ces mouvements, malgré lui-même, pour de très bonnes raisons. Et les gens qui sont à la tête de ces mouvements, eux aussi, ont été attirés pour les mêmes raisons que lui. De sorte que le malheur des hommes n'est pas dans le mouvement vers l'ésotérisme ou l'occultisme. Il est dans l'inhabilité de l'homme de casser la forme qui l'a attiré dans un premier abord, pour en arriver à se libérer de la forme et entrer dans sa propre énergie. Si vous me demandiez quel est le secret... La labade bleue. Quel est le secret de la labade bleue? Je dirais que l'homme doit découvrir qu'elle n'a pas de goût. Mais ce n'est pas le cas, parce que lorsque l'homme boit la labade bleue, il veut absolument du goût. Donc, lorsque l'homme va dans ses organisations, dans ses mouvements... On lui suggère un goût. Donc, l'homme veut, il, comme vous dites, il paie de ses efforts matériels et de ses efforts psychiques pour goûter de cette chose. Et cette condition est inévitable, mais à long terme ou à court terme. Mais moi, je dis plutôt à long terme. Je dis qu'à long terme, elle doit et elle devra être évitée. Pour deux raisons. Elle devra être évitée parce que, à partir du moment où l'homme s'intéresse au secret de la labade bleue, il demeure prisonnier d'un monde spirituel dont la vibration, d'ailleurs, est bleue. Et comme il est prisonnier d'un monde spirituel, c'est très, très difficile de voir et de réaliser que le pouvoir existe aussi dans le monde spirituel. Donc, je crois que les gens qui expérimentent dans le monde ces choses n'ont pas été suffisamment mis en garde contre le monde spirituel. Donc, pendant des millénaires, on a parlé du monde spirituel. On a nié le monde matériel, on a parlé du monde spirituel. Et aujourd'hui, on parle encore du monde spirituel, mais il y a quelque chose de neuf qui vient. Dans ce sens qu'aujourd'hui, on commence à parler simplement de l'intelligence de l'homme. Pour que l'homme comprenne parfaitement le monde de la matière, et pour que l'homme comprenne parfaitement le monde spirituel, et se dégage de l'emprise de ces deux mondes sur son mental, pour ensuite revenir dans le monde de la matière, ou revenir dans le monde spirituel, mais cette fois avec sa propre intelligence, c'est-à-dire sa propre lumière. Donc, quelle est la cause de tout ceci? Je dirais que c'est la naïveté spirituelle de l'homme. Une personne comme moi, qui arrive dans un public et qui parle d'une façon différente pendant des années, et qui dit un jour à la télévision ou devant des gens, un jour, l'ésotérisme doit être cassé. La forme, l'homme doit faire éclater la forme de l'ésotérisme ou de l'occultisme. Alors, j'ai des gens, des libraires, des gens qui sont dans ces choses-là, qui me disent, pas à moi, mais à d'autres personnes qui me connaissent, mais pourquoi Bernard de Montréal veut détruire l'ésotérisme? Et ce n'est pas que je veux détruire l'ésotérisme ou l'occultisme. La vie est occulte. Autrement dit, il y a des voiles, il y a des gens. Elle est merveilleuse dans ce sens. Mais je suis forcé, de par ma propre nature, à briser la forme de l'ésotérisme ancien pour que l'homme finalement en arrive à être dans son intelligence, comprenne l'invisible, donc se soustrait de l'ésotérisme de l'évolution
pour entrer dans l'ésotérisme de l'évolution qui deviendra pour lui l'exotérisme scientifique occulte de la prochaine génération.
D'accord. Mais vous serez probablement d'accord qu'il n'y a pas aujourd'hui de manifestation d'un ésotérisme lumineux sur la Terre, mais plutôt d'un ésotérisme de l'opacité.
Oui.
OK.
Oui.
D'un autre côté, vous me faites valoir le point qu'il n'y a pas de secret dans ces ordres ou ces supposées fraternités occultes. Pourtant, tout le monde sait que ce n'est pas le grand maître de la loge qui dirige la loge, mais qu'il y a au-dessus de lui ce qu'ils appellent des supérieurs invisibles, des frères aînés.
Oui, mais les supérieurs invisibles ou les frères aînés sont en communication avec l'homme à travers le plan astral. Et l'homme ne peut pas vivre de son intelligence si son intelligence est fixée dans le plan astral. Parce que dans le plan astral, la nature d'abord de ce plan-là, de ce monde, qu'il soit spirituel ou totalement luciférien, dans le plan astral, il y a un besoin de se nourrir de l'homme.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux. Donc, comme l'astral se nourrit de l'homme, ça fait partie de sa vocation, ça fait partie de sa nature, et ça fait aussi partie de son service évolutif. Si l'homme n'est pas, quelque part au cours de l'évolution ou au cours de l'histoire, instruit de ceci, il n'a pas, lui, de par lui-même, de par sa pensée personnelle, la capacité objective de dépasser cette condition et de neutraliser la communication télépathique entre le plan astral et son ego. Donc à ce moment-là, évidemment, l'astral créera, pour assimiler l'énergie humaine, toutes sortes de façons, toutes sortes de secrets pour mesmériser l'homme, alors que l'astral sait très bien que le secret n'existe pas. Que l'homme retienne sa parole sur une chose pour une raison d'équilibre dans le monde, c'est une chose. Moi, il y a des choses que je ne dis pas pour empêcher de créer des remous pour rien, parce que des gens ne sont pas prêts à... OK. Mais il n'y a pas de choses que je ne dis pas. Autrement dit, comme certains diraient de moi, je suis la pire personne pour garder des secrets. Si je dis, bon, ben, faut pas parler de ça, c'est moi-même qui vais en parler ensuite. Donc, je suis réellement un vaisseau percé. Je ne peux pas contenir quelque chose que je sais indéfiniment. Je suis obligé, à court ou à long terme, de le parler, mais dans des conditions qui sont suffisamment intelligentes pour que l'homme puisse en bénéficier sans qu'il vive un feedback, une réaction d'ordre psychique, occulte ou quoi que ce soit. Mais dans le cas de l'homme, de l'ésotérisme ou de l'occultisme, il semble que l'homme se baigne, que l'homme s'intéresse, que l'homme trouve, que l'homme se donne du pouvoir dans le secret. Et même si l'on dit que les initiés ou les chefs de ces organisations ne sont pas eux-mêmes les détenteurs des secrets, que ces secrets sont détenus sur d'autres plans, c'est à l'homme de briser le pouvoir occulte des plans pour que lui, à sa volonté, dans son temps, selon son intelligence, amène vers l'homme le secret ou le retienne.
Mm-hmm. Bon, en supposant que ces supérieurs invisibles-là existent bel et bien, que ce sont eux autres qui chapeautent, qui dirigent la totalité de tous ces mouvements-là comme une espèce de toile d'araignée dont toutes les ramifications viennent en un même centre. Est-ce qu'on ne peut pas, à travers l'étude du symbolisme, par exemple, si on ne fait pas partie de ces ordres-là, savoir ou deviner de quelle nature sont ces supérieurs invisibles? Par l'étude du symbolisme qui agrémente ces soirées initiatiques, dans lesquelles il y a des fuites, etc., à travers les livres, où on voit le rituel de certains ordres, et on est étonné de voir qu'à travers ce rituel, ce symbolisme-là, on retrouve beaucoup de têtes de mort, de cercueils, d'affaires de même. Je veux dire, qu'on n'essaie pas de me faire croire que c'est un ésotérisme lumineux, ça, c'est un ésotérisme de l'opacité. Il y a donc un secret occulte, il y a quelque chose à cacher qui n'est pas bien. Si c'était bien, ça serait ouvert. Et le symbolisme-là nous ramène toujours à quelque chose de très ténébreux. On peut le voir, ça, à travers tous les livres qui existent, les études qui ont été faites et les secrets percés, justement, qui sont dans ces livres-là, étalés à travers des photographies. Le symbolisme est ténébreux.
Le secret mène toujours à un pacte. La recherche du secret mène à un pacte. Le pacte mène à un contact avec l'astral. Le contact avec l'astral mène à une hiérarchie dans l'astral. Le contact avec la hiérarchie dans l'astral mène éventuellement une personne sérieusement impliquée dans cette recherche ou dans ce mouvement à mettre sur l'autel du sacrifice son âme, c'est-à-dire à mettre son âme en jeu. Mettre son âme en jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire échanger pour le pouvoir la valeur psychique de son moi. Ça implique que l'homme devient médium, qu'il échange avec les plans, qu'il reçoit des plans de pouvoir, qu'il soit d'une nature ou d'une autre. Mais une fois que le pacte a été fait avec les plans, l'homme ne peut plus le briser. Parce que le monde astral, en tout cas, tel que je l'ai décrit dans mes conférences et dans mes livres, le monde astral, c'est un monde où le mensonge fait partie absolue de son essence. Il n'y a aucune lumière dans le monde astral. Donc, qu'on fasse un pacte avec une hiérarchie ou une autre, l'homme est toujours, à court ou à long terme, perdant, que ce soit dans une vie ou dans une autre. Sur le plan occulte de l'astral, en contradistinction avec le plan ésotérique qui est plutôt symbolique, sur le plan occulte de l'astral, l'homme est obligé de perdre un peu de sa conscience personnelle. Sur le plan ésotérique de l'astral, l'homme ne va pas perdre sa conscience personnelle, mais il va être obligé de vibrer son mental à l'unisson d'un symbole, pour pouvoir entrer en harmonie vibratoire avec le plan. S'il n'est pas suffisamment centrique, s'il est orgueilleux, s'il recherche le pouvoir, quelque part dans tout le mouvement occulte et subtil de sa conscience, dont il ne connaît pas tous les souterrains, il va se faire prendre.
Bon, alors c'est peut-être ici que les Athéniens s'atteignirent, puis que les Perses se percèrent, là. Vous parlez toujours, je suis en accord avec ceci, qu'il y a à la base même de ces mouvements, une recherche de pouvoir.
Oui.
Puis si, de fil en aiguille, on avance dans la recherche du symbolisme et que l'on pénètre ou que l'on infiltre ces mouvements-là, on voit qu'il y a une hiérarchie de supérieurs invisibles dans le symbolisme et noir. Et qu'il y a une emprise sur ces gens-là.
Il peut être noir et blanc aussi. Pour moi, la recherche du pouvoir n'existe pas simplement dans les hiérarchies noires, il existe aussi dans les hiérarchies blanches. Autrement dit, le pouvoir, il fait partie autant de ce que nous appelons, entre parenthèses, le ciel que des enfers.
Je suis bien d'accord. D'accord. J'essaie de reprendre ça de fil en aiguille. Donc, d'un côté, la recherche du pouvoir, de la domination, de l'autre côté, des supérieurs invisibles que vous situez dans l'astral. Et à partir de ce moment-là, je voudrais qu'on arrête avec ça, puis qu'on revienne avec la conférence précédente sur le plan d'hégémonie mondiale des extraterrestres. Est-ce que ce ne sont pas eux, en fait, qui sont les supérieurs invisibles de ces mouvements-là? Est-ce que c'est pas ça le secret de la labade bleue? Bon, puisque c'est ça, car qui ne dit mot consent, c'est un vieil adage, ça. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire aussi. Si c'est ça, on peut déjà déduire, un peu rapidement peut-être, que ces mouvements-là sont à la solde de ces forces qui tentent d'instaurer un gouvernement de gré ou de force sur la planète. Parce que ce sont les contactés qui ont dit de gré ou de force, messagers des extraterrestres. De gré ou de force. Là, c'est bon gré, puisqu'il y a adhésion de la part de ces gens-là qui sont fascinés par la recherche d'un secret, ils adhèrent à ces sectes-là. Finalement, ils vibrent, comme vous dites, au symbolisme qui est dedans. Autrement dit, ils sont tunés au niveau du psychisme. Ensuite, ils adhèrent à ça. Et ensuite, ils sont effectivement des agents, j'aime pas dire de ces plans-là, parce que pour moi, c'est une réalité tangible. C'est pas quelque chose qui se situe dans un éther quelconque. Et qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on a déjà une partie du monde sur la planète qui s'oppose à l'autre. La planète est déjà divisée en deux clans d'opposants potentiels pour l'apocalypse. Et à travers ces sectes-là, on fait le recrutement pour ceux qui sont du côté des forces du dragon. Ce qu'on appelle le dragon, ce qu'ils appelaient le dragon et que les ufologues appellent les extraterrestres.
La polarisation de l'humanité est totale. Et on la voit dans la polarisation du mental humain. Lorsque je dis, par exemple, que le danger de ces sectes est réel parce qu'il est basé sur le pouvoir et que le pouvoir existe autant dans la loge blanche que dans la loge noire et qu'il est indiscernable l'un de l'autre, avec cette différence que l'un mène à la réincarnation et que l'autre mène à l'arrêt de la réincarnation pour l'évolution sur d'autres plans. Autrement dit, ce qui permet la réincarnation, c'est le contact avec le bas astral, et ce qui mène à un arrêt de la réincarnation, mais à une évolution sur d'autres plans, c'est le contact avec les forces blanches. C'est la seule différence entre l'une et l'autre. Mais le pouvoir demeure dans les deux cas. Et pour que l'homme se libère du pouvoir, il faut qu'il dépolarise son mental, donc qu'il amène la vibration de son mental à un niveau autre que ce que l'humanité, historiquement, par le passé, n'a pas connu. Soit dans un camp, ou soit dans l'autre. C'est pour ça que si on regarde l'ésotérisme ou l'occultisme dans le monde, en tout cas à partir de mes yeux, c'est un mal pour un bien et un bien pour un mal.
Oui, parce qu'il faut que le scandale arrive.
À moins d'avoir une vibration dans le mental suffisamment élevée pour regarder dans le noir ou le blanc et y découvrir et pouvoir y découvrir le pouvoir. Un homme qui est intelligent, dans le sens que je veux le dire, peut regarder dans un camp ou dans l'autre, dans un symbolisme ou dans l'autre, dans une sphère ou dans l'autre. Il ne pas être affecté, il regarde, il est libre, il est dans son énergie. Mais si son énergie est astralisée, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il sera absorbé par un camp ou il sera absorbé par l'autre camp.
Mais c'est drôle, moi-même, un homme libre, je ne le vois pas dans une zone mentale neutre. Pour moi, c'est comme une illusion, ça, cette neutralité. Pour moi, on est pour ou on est contre lorsqu'on sait. On ne peut pas ne pas être engagé lorsqu'on est soi-même l'enjeu du combat.
Non, un homme peut ne pas être pour et ne pas être contre. Un homme peut être au-dessus et regarder la lutte.
Je ne prendrai pas de chance.
Non, il ne faut pas prendre de chance.
Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas prendre. Parce que j'ai l'impression qu'être neutre, c'est jouer justement le jeu de l'adversaire et tomber dans ses filets. Parce que cette neutralité-là n'est pas en faveur du bien, elle est en faveur du mal. Disons des forces des lumières et des ténèbres qui s'affrontent.
Oui, il faut comprendre le terme neutre. Quand je dis neutre, je ne veux pas dire passif. Quand je dis neutre, je veux dire capable de regarder dans un camp ou dans un autre sans être affecté par le camp. Quand je dis neutre, je dis on regarde là, on étudie ceci, on étudie cela. Ensuite, on fait ce que l'on veut. La neutralité n'est pas de la passivité dans le sens que je le parle. Au contraire,
fait partie du pouvoir de la lumière de l'homme, le contrôle justement de son émotion dans le mental, donc la désastralisation de son énergie.
Bon, c'est son discernement.
Son discernement.
Après quoi vient le choix?
Après quoi vient la capacité de décision. Un homme conscient n'a pas de choix à faire, parce que choix implique là ou là. Un homme conscient ne fait pas de choix, il prend une décision. Ben, cette décision établit un mouvement d'événements qui vont aller, selon sa vibration, à la construction éventuelle de probabilités créatives. Si l'homme est obligé de faire un choix, un homme qui doit faire un choix est déjà piégé par la polarité de son mental.
Oui, puisqu'il est en recherche.
Parce qu'il est en recherche.
Il ne peut pas avoir de choix à faire.
Voilà.
Il devrait savoir à
il
quoi
doit savoir.
Tenir.
Boum, c'est ça.
Mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'information, la bonne information. L'avons-nous ou ne l'avons-nous pas?
Bon, à cette question. Un homme conscient devient informatoire. Un homme conscient devient instantanément informatoire.
Mais un homme conscient, ça ne veut rien dire si un homme conscient, ça n'a pas été défini.
Un homme conscient, le mot conscient, l'homme conscient...
Conscient de quoi?
L'homme conscient, ou la conscience, ou la définition de la conscience, fait partie du processus évolutif de chaque individu. Autrement dit, chaque individu deviendra, au cours de son évolution, de plus en plus conscient. Il y a des gens qui seront plus conscients que d'autres, d'autres gens qui seront plus conscients que d'autres, mais dans le phénomène de la conscience, il y aura, avec le temps, une dépolarisation du mental, donc l'universalisation de l'intelligence, donc l'universalisation de ce que vous appelez l'information. Si vous, vous m'informez de quelque chose et que votre information n'est pas polarisée, je suis obligé de dire oui, c'est ça. Si vous m'informez de quelque chose et qu'il y a la moindre polarité, je peux me retenir, je peux vous respecter. Je peux respecter votre opinion parce que même votre information peut servir quelque part. Mais dans le phénomène de l'information, s'il y a totale dépolarisation, je n'ai pas de choix. Je suis obligé de dire ce qu'il dit, c'est ça. Parce que dans l'information qui est issue d'une conscience mentale suffisamment vibrante, il y a automatiquement réponse d'une autre conscience mentale suffisamment vibrante. L'élimination du choix dans la conscience est fondamentale à l'évolution de la conscience. Tant que l'homme sera obligé de faire un choix, il y aura dans sa conscience une possibilité de polarité. Pour deux raisons. Parce que la polarité représente la lutte. La lutte se fait sur le plan humain psychologique et sur les plans subtils. L'homme, probablement au début, vivra la lutte sur le plan psychologique humain. Plus tard, il le vivra sur les plans subtils, mais au cours de son évolution, au cours de son intégration, au cours de sa fusion, au cours de l'unification de ses principes, au cours de l'individualisation totale de son être, au cours de la descente de la lumière dans la matière, sa propre lumière, il sera obligé de neutraliser en lui ce qui est la lutte ou l'expression de la lutte dans l'invisible. Sinon, il n'aura jamais la paix dans l'esprit.
Oui, mais il n'y a pas de paix dans l'esprit aujourd'hui, ou de paix dans les nations, ou de paix dans l'homme.
Non. Il n'y a pas...
Comment ne pas participer à la lutte lorsque la lutte est omniprésente, justement?
Il n'y a pas de paix dans les nations, il n'y a pas de paix dans l'esprit de l'homme, parce que le processus qui mène l'homme à la paix personnelle, et le processus qui mènera l'homme ou l'humanité à la paix des nations, c'est un processus qui est très lent. Seulement, il y a dans le monde des individus qui ont plus de paix que d'autres. Et les individus qui ont plus de paix que d'autres vivront cette paix par rapport à la nature même de sa réalité. Donc, ils ne vivront pas cette paix par rapport à la dualité de la lutte qui s'installe dans le mental humain en recherche ou en voie d'évolution personnelle.
C'est ça. Donc, ceux qui ne sont pas sollicités par la recherche, en fait, sont en paix.
Ceux qui ne sont pas sollicités par la recherche vont vivre un état d'apaisement selon la modalité des fonctions psychosociales ou la nature des forces psychosociales qui conditionnent leur ego. Mais à partir du moment où l'homme va vers la recherche, il commence à connaître la lutte. On dit souvent, ah ben, ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait pas mal. C'est juste. Ce que l'on ne connaît pas, ça nous fait pas mal. Mais si l'homme, pour une raison de sensibilité, pour une raison d'évolution, pour une raison d'agrandissement de son intériorité, doit aller un jour plus loin, dans la recherche et la définition de son être, il sera obligé de passer dans ou de vivre la lutte intérieure. Et s'il ne s'accroche pas à la polarité du bien et du mal, s'il en arrive éventuellement à dépasser le plan de la lutte astrale dans son mental, il entrera dans sa propre énergie, il ne vivra plus la recherche, il ne vivra plus l'angoisse, il ne vivra plus le besoin d'un choix, il sera totalement décisionnel, créatif et instantané.
Il sera plus sollicité par des théories comme la réincarnation à laquelle tout le monde adhère aujourd'hui.
Non, exactement.
Bon, alors justement, là, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. On va encore revenir sur les extraterrestres et la soirée. Vous avez certainement entendu parler du golem des kabbalistes, de l'homoncule des alchimistes du Moyen-Âge. Autrement dit, ces gens, kabbalistes et alchimistes, qui étaient capables de recréer la vie en laboratoire, des apprentis sorciers très très intelligents, ou très connaissants des processus animiques qui animent la matière. Aujourd'hui, la nouvelle qui se répand comme une traînée de poudre à travers le monde des ufologues, c'est que tout simplement que les extraterrestres, en plus de nous considérer comme une banque d'organes, nous considèrent aussi comme une banque d'organes au niveau de greffe animique. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser le principe qui nous anime, notre âme, pour animer leur bibite à eux. On comprendrait peut-être à ce moment-là pourquoi la théorie de la réincarnation est tellement répandue, pourquoi tant de monde y adhère, pourquoi aussi est-ce qu'elle vient des Indes et principalement du Tibet, ancien siège de l'Agartha. Autrement dit, en adhérant à cette théorie-là, c'est déjà comme si vibratoirement, on acceptait que notre âme soit déviée, récupérée par ces êtres-là pour être greffée sur des démons. Des petits monstres, des créatures hideuses. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ce sont de très grands scientifiques, il n'y a rien qui est à leur épreuve. Ils sont capables de tout faire dans ces domaines-là parce qu'ils ont tout exploré au niveau de ce qu'on appelle l'humanité. Tout explorer.
Je vais vous dire une chose qui peut être intéressante. Le jour où l'homme va réaliser qu'à l'aide de sa parole, dans la mesure où il est capable de la supporter, de ne pas la douter, et ce n'est pas peu dire de ne pas la douter, il sera capable d'expliquer n'importe quoi. Dans la mesure où l'homme sera capable de faire ceci, le secret n'existera plus.
Donc il y a un secret.
Il y a un secret.
Tous ces ordres, mouvements, qu'un seul peut connaître, celui qui est en relation avec la hiérarchie, qui est probablement luciférienne. C'est un joli mot, c'est un euphémisme pour ne pas dire satanique. Et qui sait le secret? Et le sachant, il sait ce qui se passe sur la planète. Et sachant ce qui se passe sur la planète, il a une avance sur tout le monde. Il a un pouvoir total sur tout le monde, parce qu'il peut fourrer tout le monde. Même les plus intelligents, parce que ce n'est pas une affaire d'intelligence, il faut le savoir, point. L'information peut vous venir de quelqu'un qui le sait, puis qui vous le dit. Il peut courir après toute sa vie, 30 ans, 40 ans, 50 ans, faire un constat d'échec, comme j'ai vu un métaphysicien à la télévision faire un constat d'échec après 50 ans de recherche. Alors qu'il aurait pu rencontrer sur sa route quelqu'un qui savait, qui lui explique ce qui se passe sur la planète, et aurait tout compris, parce qu'il aurait été capable de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que déjà, l'humanité est divisée en deux clans. Les pros et les anti. Pro quelque chose et anti quelque chose. de deux factions qui vont s'affronter. Et ce n'est pas une guerre entre humains. C'est une bataille ailleurs qui se passe. Dans l'enjeu, c'est nous. Ce n'est pas nous qui allons nous battre. Nous autres, on va prendre les claques sur la gueule. Il y en a parmi nous qui auront été complices parce qu'ils savaient, puis qui se sont fermés la trappe. Puis d'autres qui ont tenté de parler, puis qui se sont fait étouffer, qu'on a retrouvé suicidé. Puis quelques-uns qui parleront. Et le drame, c'est qu'il n'y aura personne pour les entendre. Vous d'accord?
Parler, c'est une... Parler...
On peut parler de tout, mais je veux parler de l'essentiel
oui.
ce soir.
Oui. Parler, c'est un phénomène qui est nouveau sur la Terre. Parler, ce n'est pas jaser. À partir du moment où un homme parle, dans le sens réel du terme, il altère les plans. Il altère ce qui se passe au niveau de la lutte dans l'invisible. Mais il ne peut pas parler avant un temps. Autrement dit, parler dans le sens absolu que je lui donne, c'est manifester intelligemment la nature de la lutte dans l'invisible dans un temps qui convient à l'homme. On ne peut pas parler aujourd'hui comme on parlera dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans.
C'est pour ça qu'il n'y a personne qui parle aujourd'hui.
Parce que l'homme, si on lui parle, on doit lui parler à un niveau, pour l'amener graduellement à pouvoir s'habituer à être parlé. L'homme n'est pas habitué à être parlé. La preuve, c'est que si on parle à l'homme, surtout s'il est le moindrement stérilisé, surtout s'il a beaucoup d'intellect, ainsi de suite, il va automatiquement entrer dans un réflexe et contester ce qu'on va lui parler. Si on prend la salle, bon, ici, je ne parle pas de la salle, mais si on prend la salle, ce n'est pas la masse, la salle. Bien qu'elle fasse un peu partie de la masse. Si vous arrivez dans la salle et que vous parlez de vos choses, pour moi, c'est très
intéressant. Ce ne sont pas mes choses, ce sont nos choses.
Nos choses. Si, ça peut être très intéressant pour moi, mais ça va être intéressant pour moi dans un mode qui est très différent de l'intérêt que eux ou la salle peut y trouver. Peut-être que des gens dans la salle vont dire, ah, ce soir, c'était très intéressant la conférence. Mais pour moi, c'est simplement une autre conférence.
Parce que vous savez cela depuis toujours.
Parce que je sais cela depuis un certain temps. Donc, à ce moment-là, il vient un point où parler n'a pas la même résonance dans mon mental que pour d'autres personnes. Pour la simple raison que parler, pour moi, ça fait déjà partie d'un connu. Pourquoi ai-je considéré votre personne la plus intéressante et la plus apte à m'interviewer dans toutes les personnes que j'ai connues? Parce que les questions étaient d'abord, à prime abord, intelligentes. Si les questions, et quand je dis intelligentes, je ne veux pas dire que les autres personnes n'étaient pas intelligentes. Je veux dire que la vibration de la question permettait une réponse à sa mesure. Autrement dit, moi, je peux parler dans la mesure où on me fait parler. Mais si on ne sait pas me faire parler, si on ne sait pas me faire vibrer, si on colore trop sa propre parole, moi, je ne parlerai pas. C'est une loi vibratoire. C'est une loi vibratoire parce que je ne suis pas intéressé à ce que je sais. Je n'ai pas d'imagination. Je ne pense pas. Je parle. J'apprends. Donc, si on va aller chercher dans l'invisible des choses, qu'on me pose des questions intelligentes et je parlerai. Mais pour le monde, pour la salle, pour le public, une question n'est peut-être intelligente et pour moi ne pas l'être. C'est moi qui vibre à la vibration de votre parole. C'est pas la salle. La salle, elle vibre à son niveau. Moi, je vibre à mon niveau. Je n'ai jamais exclu de ma parole quoi que ce soit, mais on a exclu de me demander quelque chose de façon vibratoirement intelligente pour que je puisse déclencher et arroser la salle de réponses qui pourraient satisfaire autant la salle que celui qui demande.
Bon, alors, en considérant les milliers de questions que je vous ai posées en 5 ans, en les mettant de côté, quelle serait la question qui n'a pas été posée et qui vous ferait vibrer?
Je ne sais pas. Toutes les questions qui n'ont pas été posées et qui me feraient vibrer sont des questions que je répondrai si on me fait vibrer. Mais il faut qu'on me fasse vibrer. Mais il faut que la vibration soit mentale. Si la vibration est mentale, ça, je la sens, la vibration mentale. Je la sens, la beauté de l'intelligence. Et à ce moment-là, je vibre. C'est un peu comme un soleil qui fait vibrer un autre soleil. Mais si c'est la lune qui me parle, je ne vibre pas.
Il faut que ce soit le soleil.
Il faut que ce soit un soleil. Autrement dit, il faut qu'il y ait... En tout cas, moi, je suis très sensible à ceci.
Vous êtes un soleil.
Il faut qu'il y ait deux soleils qui se parlent. Deux soleils. Il faut qu'il y ait deux soleils qui se parlent. Autrement dit, il faut qu'il y ait deux vibrations universelles qui sont capables de faire éclater le relatif, l'abîme, le ténèbre, la forme, l'occulte, le satanique, le luciférien.
Mais j'ai déjà connu des soleils qui, lorsque la question ne faisait pas leur affaire, faisaient une éclipse de soleil.
Oui. Un soleil peut s'éclipser dans ce sens que il peut émettre dans un temps quelque chose pour émettre dans un autre temps autre chose. Le soleil, ou ce qui est solaire, ce qui est dynamique, créatif, passe à l'action toujours en fonction de la formulation sympathique qui va avec sa propre mentalité.
Mmh. C'est intéressant, mais en physique, c'est pas ça. Le soleil éclaire et chauffe tout le monde. Il filtre pas ses rayons.
Oui, le soleil éclaire tout le monde, pas ses rayons.
C'est l'atmosphère qui filtre
les
rayons.
C'est l'atmosphère qui filtre.
Autrement dit, le public ou le mental ou le cœur de chacun qui est ici, qui fait le filtrage.
Oui.
Mais le soleil, il diffuse.
Oui. Le soleil diffuse parce que déjà, il y a une atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de vie. Autrement dit, la puissance créatrice en elle-même connaît, réalise, sait les conséquences de ses actes. Donc, connaissant la conséquence de ses actes, elle est toujours sciente de la vibration qu'elle crée dans le monde mental de l'homme. Sinon, les choses dites secrètes, les choses de l'invisible, les choses de l'universel seraient amenées dans le monde gratuitement, elles seraient reprises par le monde émotivement, et à ce moment-là, l'astral reprendrait le tout et créerait dans le monde une psychose. Parce que même si on parle à l'homme et qu'on dit des choses à l'homme qui sont réelles, qui sont créatives, l'homme, dans un premier temps, n'est pas nécessairement prêt à les recevoir. Il y a de l'émotion, il y a de la mémoire, il y a de la spiritualité, il y a toutes sortes d'astralités. C'est avec le temps que l'homme devient réellement mental et qu'avec lui, tu peux parler de n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, il n'est plus affecté émotivement par la parole. Le jour où l'homme pourra dire des choses, autrement dit, le jour où la parole pourra résonner, vibrer dans le monde, et que l'homme ou l'individu, parce que je ne vois pas l'humanité dans une totalité, mais que l'individu pourra vibrer à cette même énergie, il n'y aura aucun problème dans la communication occulte des plans. Et à ce moment-là, il se créera petit à petit une ressource humaine créative, intelligente, individualisée, qui, grandissant, pourra plus tard travailler contre les forces que nous avons parlé ce soir.
Autrement dit, c'est comme si vous reprochiez à quelqu'un qui parle avant que le temps de la manifestation lui soit tombé sur la gueule de déclencher la tempête, de créer une panique. Mais moi, je me suis toujours considéré comme un baromètre. Et vous ne pouvez pas dire à un baromètre qu'il a déclenché la tempête. Il ne fait simplement que l'indiquer.
Oui, mais ça, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de déclencher la tempête. Votre rôle est justement ce que vous faites. Votre rôle n'est pas mon travail. Votre rôle n'est pas ma manifestation. Votre rôle n'est pas ma condition. Votre rôle, il est impérieux, il est valable, il est intéressant, il est grand, et j'ai travaillé dans le fond, en relation avec votre rôle. Mais votre rôle, qui est celui de me faire parler, doit donner des résultats dans la mesure où vous me faites parler créativement. Personne ne peut me faire parler si je ne veux pas parler, mais tout le monde peut me faire parler si ceux qui me questionnent d'une façon qui est mentale, où je ne décèle pas d'astralité. Donc votre rôle, vous le remplissez à merveille, vous l'avez toujours rempli à merveille. Et avant que nous cessions cette discussion, parce que nous finissons ce soir, je demande à la salle de donner une main d'applaudissement pour Payotte. C'est quoi ton premier nom? Léon Payotte, parce que il a été réellement, dans mon expérience, la personne qui a su me faire parler avec le plus grand des plaisirs. Mais il y aura peut-être quelqu'un dans un autre temps qui me fera parler encore plus et plus. Donc s'il y en a dans le monde qui viennent un jour continuer ce mouvement de faire parler quelqu'un qui peut parler, je parlerai. Et s'il n'y en a pas, ce sera ma dernière conférence ce soir avec Payotte. Donc,
une éclipse de soleil.
Ce sera une éclipse de soleil. Il est difficile pour les gens de réaliser comment je vibre, c'est normal. Mais il est très facile pour moi de réaliser combien je vous ai aimé pendant toutes ces années, et combien je vous dois de respect, et combien je dois, pour les années qui continuent, toujours me rappeler que vous avez été mon meilleur ami. Mais ce n'est pas fini, l'histoire de la parole. Moi, je suis fatigué. Dire des choses qu'on sait, c'est fatigant. Mais redire des choses qu'on sait, quand la question fait vibrer, élimine la lourdeur astrale, c'est un grand plaisir. Donc, je souhaite qu'un jour, quelqu'un dans la province de Québec ou d'un autre pays vienne s'asseoir, comme Payotte est là ce soir, et me fasse parler. Et ensemble, nous ouvrirons. Donc, nous amènerons l'homme à réaliser qu'il n'y en a pas de secret. Mais la parole, en tout cas la mienne, elle est ouverte pour le monde, elle est ouverte dans le monde, mais elle est fermée aussi dans le monde. Elle est ouverte là où il y a de la lumière, elle sera toujours ouverte là où il y a de la lumière, mais elle se fermera si la lumière est astralisée. Parce que je ne suis pas intéressé à créer des formes dans le mental humain qui seront réutilisées par l'astral contre l'homme, parce que je sais que c'est ainsi que ça fonctionne.
Je ne suis pas plus intéressé que vous. Je suis intéressé à la même chose que vous, à voir éclater la jeunesse du réel dans le monde. Qui c'est qui a écrit la jeunesse du réel?
Dernière question. C'est une blague. D'ailleurs, c'est une blague qui a été... C'est plutôt Glenn, ça, qui a amplifié cette blague, parce qu'on sait que Glenn aime ça, créer du théâtre. Mais lorsque je dis que je n'ai pas écrit le livre... Je veux dire que le livre n'est pas le produit d'une manipulation psychologique. Le livre, c'est une canalisation. Je m'assieds à la machine et je l'écris. Et au fur et à mesure que je l'écris, je le trouve intéressant. Donc, je n'ai pas écrit le livre. Le livre s'est écrit. Effectivement, c'est moi qui ai écrit le livre sur d'autres plans. Mais je n'ai pas écrit le livre égoïquement. J'ai écrit un livre qui a laissé transparaître une grande impersonnalité. J'ai écrit un livre que je regarde de temps à autre et que je trouve intéressant. J'ai écrit un livre qui ne m'appartient pas. J'ai écrit un livre qui appartient à l'homme. J'ai écrit un livre qui fait partie de la conscience de l'homme. Et lorsque l'homme aura la conscience ou suffisamment de sa conscience, il regardera le livre et le livre sera limpide, facile. Et lorsque l'homme aura une conscience éthérique, il regardera derrière les lignes du livre et il verra ce que j'ai écrit dans le secret de la forme. Parce que les hommes sont universels. Et au-delà du mental, au-delà de la forme, il y a la vibration. Et dans la vibration, il y a la lumière. Et dans la lumière, il y a tous les secrets. Donc l'homme...
Dans la lumière, il n'y a pas de secret.
Il y a tous les secrets. Donc dévoilé. Il n'y a pas de secret.
Oui.
Voilà.
On arrête là-dessus parce qu'il semble qu'on peut être d'accord. N'oubliez pas ma bonne main d'applaudissement. Et je veux aussi remercier Bernard pour m'avoir permis non pas d'évoluer, mais de me réaliser. Merci. Bonsoir à tous.